Voici l'Europe, Anastasia Becchio, Caroline de Camaret.
Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur Radio France Internationale et France 24 pour Ici l'Europe. Nous sommes installés à la Commission européenne pour y recevoir, pour grand invité, un commissaire européen qui a la particularité d'être probablement le dernier commissaire britannique de tous les temps. Et puis il s'occupe aussi, probablement, on verra, l'histoire le dira, et il s'occupe aussi de la sécurité de l'Union européenne, un sujet qui est particulièrement, qui prend une ampleur toute particulière avec le tragique attentat de Strasbourg, dont nous allons parler, bien sûr.
Bonjour, Julian King.
Bonjour.
Je devrais peut-être dire sœur Julian King, parce que vous avez été anobli lorsque vous avez dirigé l'administration britannique en Irlande du Nord entre 2011 et 2014. Vous êtes aussi très connu et vous connaissez très bien Bruxelles, puisque vous avez occupé plusieurs postes importants ici. Vous avez notamment été directeur de cabinet des commissaires britanniques Mandelson et Ashton. En 2016, vous êtes nommé ambassadeur en France, à Paris. Et puis, vous êtes rappelé ici même, après la démission de votre compatriote, commissaire, suite au vote du Brexit, la décision du Royaume-Uni de quitter le club européen. Depuis 2 ans, donc, vous vous occupez de la sécurité de l'Union européenne, avec un nombre de morts dans les attentats en Europe qui a fortement chuté au cours de ces dernières années. 168 morts en 2016, 80 en 2017, et sans doute, en tout cas on l'espère, beaucoup moins cette année.
Un mort, c'est déjà trop. Alors, suite aux événements à Strasbourg que vous venez d'évoquer, nos pensées vont d'abord aux victimes et à leurs proches. De la part de la Commission, j'ai moi-même signé le livre de condoléances à Strasbourg. Nous sommes aux côtés des Strasbourgeois.
Alors justement, l'attaque terroriste de Strasbourg vient rappeler que la menace est bien réelle. On l'avait peut-être un petit peu oublié. On est très résilient finalement face au terrorisme en Europe aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous interpelle principalement dans ce nouvel acte ?
D'abord, il faut dire qu'il faut rester résilient. Il ne faut pas être terrorisé, il faut donner tort aux terroristes, il ne faut pas changer notre façon de vivre, mais il faut en même temps rester vigilant, parce que le niveau de menace, malheureusement, reste élevé, voire très élevé, en France, mais ailleurs en Europe aussi.
Quel devrait être le niveau d'alerte en Europe en décembre 2018, selon vous ?
Il faut, comme je viens de dire, le niveau d'alerte, c'est fixé par les États membres. Dans plusieurs États membres, surtout les États membres qui ont été malheureusement déjà touchés par les attaques terroristes, le niveau d'alerte reste soit au niveau le plus élevé, soit un petit peu en dessous. Mais il ne faut pas se tromper dans tout cela. La menace terroriste pèse sur nous tous et il faut rester vigilant.
Alors, ce qui est assez frappant, c'est que l'auteur, Sherif Shekat, était un délinquant de droit commun qui a vraisemblablement été radicalisé entre 2013 et 2015 en prison, dans les prisons françaises. Alors, comment est-ce qu'on peut éviter ce phénomène de radicalisation en prison qui est vraiment prégnant, hein ?
On a un problème avec la radicalisation. C'est pour cette raison qu'au niveau européen, nous travaillons avec les experts, les autorités nationales dans tous les États membres pour essayer de lutter contre la radicalisation.
Séparer ceux qui sont prédicateurs dans
nos communautés et je voulais souligner ça, en ligne. Parce qu'on a un vrai problème avec la radicalisation en ligne. Mais évidemment, on a aussi, et on est tout à fait conscient, un problème avec la radicalisation en prison. Justement, on finance au niveau européen plusieurs programmes pour aider et soutenir les États membres. On a établi un réseau des experts qui travaillent sur ce problème-là. Ils partagent des bonnes pratiques. Ils forment les personnels parce qu'il s'agit d'un problème. C'est pour les personnels d'être capable d'identifier, qu'ils puissent identifier les signes de radicalisation. C'est pas facile.
Alors justement, vous parlez de la lutte contre les contenus à caractère terroriste en ligne. Oui. L'Union européenne envisage d'obliger les acteurs du web à supprimer certains contenus sensibles. Assez rapidement, est-ce que vous pouvez nous préciser ces projets ?
Absolument. On a un problème avec la radicalisation en ligne. Les attaques qu'on a vues ces derniers mois, malheureusement, dans plusieurs cas, sont liées avec les contenus. Les individus ont été radicalisés en regardant ces contenus horribles qu'on trouve par des millions en ligne. On travaille depuis quelques années avec les plateformes, avec les grands du web, et il y a une coopération volontaires qui marchent. Mais ça, c'est les grandes. Et le problème avec ces contenus terroristes, c'est qu'on les trouve sur des centaines et des centaines de petits sites. Et pour les plus petits, c'est très difficile d'être responsable, de se sentir responsable, de juger si tel ou tel contenu est illicite, terroriste. Et pour les aider, on a proposé une législation au niveau européen pour établir une base claire avec une définition d'un contenu illégal, terroriste, et des mesures transparentes pour que les autorités prennent la responsabilité de donner un ordre pour retirer un contenu. Et quand le contenu est signalé comme, mettons, illégal par les autorités judiciaires ou la police, dans ces cas-là spécifiques, les sites seront obligés de retirer le contenu dans une heure.
Mais est-ce que tous les hébergeurs ont la capacité et surtout la volonté de le faire ?
Volonté, je crois. Capacité, c'est une question de les aider. En définissant un contenu illégal, on ne laisse pas le jugement aux hébergeurs. Pour eux, c'est une question d'agir quand ils ont reçu un ordre de la part de la police ou des autorités judiciaires. Pour moi, ça, c'est plus transparent que la situation actuelle.
Alors, on rappelle quand même que l'attentat a été commis par, on l'a dit, à l'attaque sur le marché de Noël de Strasbourg par un tueur qui a été retrouvé dans Strasbourg même et qui a été tué donc dans Strasbourg même. Le marché de Noël n'était pas visé tout à fait par hasard. Il avait déjà été visé en 2000, comme d'ailleurs celui de Berlin. Les marchés de Noël représentent véritablement un symbole. Retour tout de suite sur ces cibles privilégiées avec ce reportage.
Le marché de Noël de Strasbourg, symbole de la ville, la cible de nombreuses menaces terroristes. Un lieu placé sous très haute sécurité depuis les attentats de 2015 et même bien avant. En 2000 déjà, une attaque visait le marché de Noël. Quatre hommes liés à Al-Qaïda sont arrêtés à Francfort. Il s'apprêtait à poser une bombe au pied de la cathédrale, la nuit de la Saint-Sylvestre. 16 ans plus tard, en 2016, nous sommes en pleine vague terroriste. Un groupe de 4 djihadistes est interpellé dans la ville alsacienne. Des pistolets semi-automatiques sont retrouvés à leur domicile. Alors Strasbourg serait-elle une cible privilégiée des terroristes ? Selon les services de renseignement, il y aurait bien une filière strasbourgeoise. L'un des assaillants du Bataclan en faisait partie. Plus récemment, en septembre dernier, un jeune homme d'origine tchétchène a été arrêté chez ses parents à Strasbourg. Il est soupçonné d'avoir voulu commettre un attentat dont la cible reste inconnue. Selon le maire de la ville, 10% des fichiers S à l'échelle nationale et résideraient dans le Bas-Rhin.
Alors, on voit que ces marchés de Noël sont des cibles privilégiées. Il y a une question de mode de vie. Vous avez aussi réagi sur la question des armes, monsieur le commissaire.
Mais on a un problème avec l'utilisation des armes, évidemment, dans ces attaques. Au niveau européen, nous avons établi des nouvelles législations pour limiter l'accès aux explosifs et aux armes. Justement, on a interdit les automatiques, les semi-automatiques, les gros chargeurs. Mais il faut que ça soit mise en œuvre effectivement par les États membres. Au moment que nous parlons, malheureusement, ce n'est pas le cas dans beaucoup des États membres. La France, cette législation a été beaucoup inspirée par l'exemple de la législation française. Au Royaume-Uni, il y a les contrôles qui sont très bien établis. Malheureusement, dans d'autres pays, comme par exemple l'Allemagne, c'est beaucoup moins suivi pour le moment.
La Commission européenne a débloqué un fonds européen de 18 millions d'euros pour sécuriser les espaces publics, dont 5 millions pour la ville de Nice, où vous étiez récemment. Oui. On ne sécurise jamais à 100%.
On ne peut pas sécuriser à 100%. On ne peut jamais garantir une sécurité contre toute attaque possible. Mais ce qu'on peut faire, c'est rendre les attaques plus difficiles en sécurisant nos espaces publics sans pour autant changer leur nature ouverte. On travaille avec les villes, les autorités locales pour les aider, les financer à réaliser des projets à Nice, à Lyon, d'autres villes encore, j'espère, parce qu'on va mobiliser encore une centaine de millions d'euros pour ces projets cette année.
Alors, il y a évidemment un aspect transfrontalier quand vous parliez de la possibilité de passer pour les armes, pour les terroristes également. Vous êtes britannique en charge de la sécurité de l'Union et post-Brexit, le Royaume-Uni et les 27 vont-ils continuer à justement coopérer très étroitement? Échanger des informations, ça pose une vraie question.
J'espère que la réponse sera oui. Je travaille sur ça depuis des mois maintenant. Avec le Brexit, le Royaume-Uni quitte l'Union européenne. Le Royaume-Uni devient un pays tiers. Mais il faut qu'on trouve un moyen de garder une coopération, comme vous dites, très étroite contre ces menaces. Les menaces terroristes, aussi les menaces cyber, parce que ce sont des menaces qui nous touchent tous. Les gens qui essaient de nous faire du mal, aussi bien les terroristes que les gens qui utilisent le cyber, visent pas un pays ou un autre, ils visent, comme vous venez de dire, notre façon de vivre. Et nous sommes plus forts en agissant ensemble pour essayer de combattre et lutter ces menaces-là.
Michel Barnier a mis en garde contre une perte d'accès au système d'information Schengen si les Britanniques sortaient de l'Union européenne sans accord, avec un no deal, comme on dit. Ce fichier a été consulté 539 millions de fois par la police britannique en 2017. Est-ce que vous redoutez un sérieux coup porté à la sécurité britannique en cas de no deal?
D'abord, je ne parle pas pour le gouvernement britannique, mais autant que je sache, le gouvernement britannique ne vise pas un no deal, il vise un deal. Mais vous avez raison que ces systèmes-là, et surtout le système Schengen, est très important, très utilisé par tous les États membres. Justement, nous sommes en train de moderniser ces bases de données au niveau européen pour que les policiers, les gardes frontières puissent être mieux équipés pour faire leur travail. Ça reste très important comme façon de coopérer. C'est déjà très important, par exemple, pour la coopération dans le domaine de la sécurité entre le Royaume-Uni d'un part et la France de l'autre, ou Irlande. Il faut trouver un moyen de maintenir cette coopération, comme je viens de dire.
Alors, le Brexit a justement été encore l'objet d'un sommet européen les 13 et 14 décembre. Vous êtes ancien ambassadeur à Paris, à Dublin et même en Irlande du Nord.
Est-ce que vous comprenez? Pas ambassadeur en Irlande du Nord. Irlande du Nord fait partie du Royaume-Uni.
Tout à fait. Mais vous avez travaillé aussi là-bas. Vous comprenez les difficultés spécifiques de cet accord introuvable?
Bon, encore une fois. Je ne représente pas le gouvernement britannique et à la Commission, c'est Michel Barnier qui s'en charge de ces questions-là. Des deux côtés ont exprimé à plusieurs reprises qu'ils cherchent un accord. J'espère qu'on va trouver un accord.
On l'a trouvé, normalement. Mais est-ce qu'il peut satisfaire...
Un accord qui va être mis en œuvre.
Selon les médias britanniques, des centaines de comptes Twitter diffuseraient de fausses informations pour attiser les mécontentements, notamment en France avec la crise des gilets jaunes. On a vu des comptes Twitter qui diffusaient de fausses vidéos ou des photos de gilets jaunes blessés par la police. On a pointé du doigt des comptes proches du Kremlin. Qui aurait intérêt à amplifier ce conflit ?
Je ne parle pas d'un conflit spécifique, mais on a certainement un problème avec les fausses informations. Ce n'est pas quelque chose de complètement nouvelle. Mais le problème maintenant, c'est que ces fausses informations sont diffusées beaucoup plus rapidement qu'auparavant et à un public beaucoup plus large. C'est pour ces raisons-là que nous avons établi un code de bonne pratique avec les plateformes pour essayer de lutter contre ce problème. Il faut préciser qu'on ne vise pas, dans ce cas-là, tel ou tel contenu. On ne vise pas le contenu parce qu'on ne veut pas... ce n'est pas une question de censure. Ce qu'on essaie de faire, c'est d'avoir plus de transparence. On vise les moyens de transmission de ces informations. Et avec les grandes du web, nous avons défini un code avec les objectifs spécifiques pour qu'il y ait plus de transparence autour des publicités, surtout les publicités politiques, autour des contenus sponsorisés, autour des faux comptes. Il y en a beaucoup trop, toujours, des faux comptes. Facebook, par exemple, a dit qu'il y a, selon Facebook, entre 3 et 4% de l'ensemble de ces comptes sur sa plateforme qui sont les faux comptes.
Non identifiables.
Ça veut dire entre 60 et 90 millions. Ben, il faut agir. Il faut aussi agir sur les bots. Moi, franchement, je ne vois pas de bonnes raisons pour que les contenus politiques puissent être autorisés, être diffusés par des machines. Au moins, il faut être, il faut dire
avec
que c'est
des inquiétudes spécifiques sur les élections européennes.
Tout ça, c'est quelque chose qu'il faut faire contre toutes les fausses informations. Mais justement, c'est surtout un problème dans le domaine politique. Et nous aurons des élections au niveau européen printemps prochain. Il nous reste quelques mois pour essayer de mieux sécuriser ces élections. On va travailler sur ça avec les grandes plateformes. On vient de dire qu'on va publier des rapports sur le progrès que nous faisons sur ces questions que je viens d'évoquer tous les mois. Janvier, février, mars, jusqu'aux élections.
Julianne King, votre mandat est censé s'achever le 29 mars, en fait, au moment du divorce. Hein. Mais d'abord, si le Brexit a bien lieu, vous croyez qu'il aura lieu ?
Bon, d'abord, ça veut dire qu'il me reste encore quelques mois, pour travailler sur ces questions-là. Même si, finalement, je suis le dernier commissaire britannique, c'est très important qu'il y ait un commissaire qui s'occupe de ces questions pour continuer ce travail. Parce que les menaces, même avec le Brexit, les menaces restent. Et le travail que nous faisons au niveau européen pour soutenir et aider les États membres et les partenaires à faire face contre ces menaces restera très, très important.
Vous qui êtes très européen, qu'est-ce que vous allez faire après, finalement ? Est-ce que ça ne va pas vous rendre un petit peu triste de quitter Bruxelles ?
Ma femme vit à Bruxelles, alors je ne sais pas si je vais quitter Bruxelles. Je vais rester avec ma femme, en tout cas.
Qui elle-même est européenne, en effet.
Merci.
Merci, Julianne King, d'avoir été notre invitée.
Merci à tous. Restez sur France 24 et RFI. L'information continue.